Merci beaucoup, Eric. Bonjour à tous. Très, très, très heureux vraiment d'être avec vous ce matin. C'est ma toute première fois à Clermont-Ferrand, mais je me suis senti très vite à l'aise et en famille grâce au bel accueil de vos jeunes hier durant notre soirée Pulse. Et puis, j'ai eu la joie, vraiment la joie, de retrouver en fait des frères et sœurs qui m'ont connu quand j'étais un peu plus jeune, avec un peu plus de cheveux. Mais voilà, donc je suis originaire du Mans et du coup, Jean-Naël et Émilie, Pierre et Claire à Villermé, on a eu la joie de se connaître il y a des décennies, mais presque. Hein. Et donc, du coup, on a beaucoup de souvenirs en commun. Ne leur demandez pas trop parce que je pense qu'ils doivent avoir des dossiers sur moi. Donc, il vaut mieux que je prêche vite avant que vous entendiez quel genre de jeune homme j'ai été dans ma jeunesse. Mais en tout cas, c'est vraiment une joie. Je vous transmets aussi les salutations de l'église où je sers. Donc, on est en effet une église baptiste dans la région parisienne, à l'est de Paris. Donc, si un jour vous devez aller visiter Paris ou si vous préférez Disneyland, nous sommes pile poil entre ces deux lieux. Donc, on sera ravis de vous accueillir. Alors, Eric m'a informé que vous êtes au cœur d'une série sur les « Je suis » dans l'évangile de Jean. Et j'ai écouté donc l'oratrice de dimanche dernier qui vous a parlé de cette parole du Seigneur Jésus, « Moi, je suis la porte ». Et nous allons relire en fait un peu les mêmes versets, puisqu'en fait, dans le même passage de Jean 10, nous trouvons une autre affirmation. Donc, je vais laisser l'équipe mettre peut-être la première slide avec la référence du texte que nous allons lire. Donc, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et nous allons lire, voilà, super, merci beaucoup, les versets 1 à 17 dans cet évangile de Jean. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix et il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. C'est moi qui suis la... Mais les brebis ne les ont pas écoutées. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et entrer et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur, il vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye simplement pour les garder, il se sauve, lui, dès qu'il voit le danger. J'ai sauté une ligne. Dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et il disperse le troupeau. Cet homme, il agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Alors, ainsi, il n'y aura qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. On va juste prier. Notre Père, nous te demandons la grâce d'éclairer les paroles de ton Fils que nous venons de lire. Nous avons faim et soif d'entendre ta voix, non la mienne. Et nous te demandons que dans ta grâce, nos cœurs soient réceptifs à tout ce que tu vas éclairer par ton esprit ce matin, que nous puissions recevoir dans des cœurs bien disposés et que ta parole produise en nous tous les fruits que tu désires qu'elle produise, pour la gloire de ton nom. Amen. Qui parmi vous connaît ce film? Qui a vu ce film, Forrest Gump? Ça va, je me suis demandé si c'était... Maintenant, je me méfie parce que quand j'interviens avec les jeunes, comme hier, je me méfie parce que peu à peu, le champ culturel n'est plus tout à fait le même. Et parfois, je fais référence à des choses et les jeunes me regardent comme ça. C'est quel siècle, ça? Donc, si vous connaissez ce film qui est assez comique et qui retrace donc toute l'épopée, il y a une scène vraiment très intéressante dans ce film qui a un lien un peu avec le thème que nous voudrions aborder ce matin. Bon, vous savez, Forrest, un des trucs qu'il fait beaucoup, c'est qu'il court. Et à un moment donné, il lui prend l'envie de courir. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film. Et sans trop savoir pourquoi, il se met à courir et à traverser les États-Unis en long et en large, d'est en ouest. Et puis, bien sûr, ça finit par attirer un peu les médias qui lui demandent un peu le pourquoi de cette course. Et si vous vous rappelez, il n'a pas vraiment de réponse au pourquoi il court. Mais il continue et forcément, vu que c'est médiatisé, il se trouve qu'il y a des gens qui commencent à le suivre et à courir derrière lui et à traverser avec lui les États-Unis d'est en ouest. Au point qu'à un moment donné, on arrive à une scène assez clé et très ironique en même temps de cette course. C'est que subitement, il va s'arrêter de courir. En plein milieu du Grand Canyon, du désert, il va s'arrêter de courir et il a déjà tout un troupeau qui est derrière lui et qui a placé des attentes dans cet homme qui court et qui a forcément quelque chose à nous apporter, quelque chose à nous dire. Et puis, bah, si vous connaissez la suite, ils se retournent et la seule chose qu'il leur dit, c'est « Je suis fatigué. » Et tout est fini. Et il laisse tous ces gens-là en plan qui le suivent depuis un certain nombre de temps. Et donc, c'est une scène forcément assez comique, assez ironique, mais ô combien pertinente. Combien de gens suivent des bergers de nos jours, des leaders, des influenceurs, des vedettes, sans trop savoir s'ils sont dignes d'être suivis? Combien de personnes ont envie d'être suivies sur les réseaux sociaux, ont envie d'avoir un grand nombre de followers, de likes, ou ont envie d'avoir un impact, une influence sur un certain nombre de personnes dans le milieu professionnel ou dans leur domaine de compétences, sans toujours s'interroger, en fait, est-ce que je suis vraiment digne d'être suivi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en moi? Et donc, notre texte biblique qu'on vient de lire ce matin dans Jean 10, je trouve, est d'une grande pertinence pour notre époque encore aujourd'hui, parce qu'il soulève quelques questions importantes. Est-ce qu'un homme ou une femme réellement est digne de guider d'autres? Est digne d'être un conducteur, un influenceur, peu importe le mot que vous préférez? Et si éventuellement une telle personne existe, quelles devraient être ses qualités? Si je veux prétendre à être peut-être quelqu'un qui influence, guide, conduit, dirige d'autres, quelles devraient être mes qualités? Et Jésus, en fait, par cet enseignement-là, dans son époque, soulève toutes ces questions-là et en fait veut nous inviter à réfléchir et une fois de plus à nous poser les bonnes questions. Et notamment, en fait, il nous invite à le comparer à tous ceux qui voudraient aussi être des bergers pour les autres. Et assez rapidement, on va le voir ensemble, nous allons réaliser qu'il n'y a personne comme lui, qu'il n'y a aucun berger comme lui. Et l'une des premières choses, je voudrais attirer votre regard sur différents aspects de ce passage, l'une des premières choses sur laquelle Jésus veut attirer notre attention, c'est l'intérêt qu'il porte à la voix du berger. Vous avez peut-être vu qu'il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, la répétition de ce terme, sa voix. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom, donc il parle, et il appelle par le nom celles qui lui appartiennent. Sa voix à ses brebis leur est pas familière. Un peu plus tard, elles ne connaissent pas la voix des étrangers, elles écouteront ma voix. Jésus souligne, de par cette manière, à plusieurs reprises, le rôle de la voix du berger. Il les appelle par leur nom. Il connaît et elles connaissent le son de sa voix. Elles l'écoutent, elles le suivent, etc. J'ai entendu une fois cette histoire, j'aurais voulu vraiment la vivre pour voir, mais je fais confiance au frère qui me l'a raconté, qui un jour se trouvait dans une région des Alpages, dans les Alpes, et il a rencontré un berger, et du coup, il avait pas mal de questions sur justement ce rôle de berger. Et ils s'en sont venus à parler de la voix du berger. Est-ce que c'est vrai que votre voix a vraiment un impact sur votre troupeau? Et puis, le berger, né une et deux, il a dit, allez-y, appelez-les. Il y avait le troupeau, le mouton, là, qui n'était pas très loin. Et puis, mais qu'est-ce que je dois dire? N'importe quoi, faites un cri, allez-y, appelez-les. Donc, du coup, le pasteur, il dit, mouton, troupeau. Troupeau. Et puis, il tente toutes les intonations, tous les termes, etc. Et tout. Et le mouton, vous imaginez bien, il ne bouge pas. Il continue à brouter, quoi. Et puis là, il demande au berger, puis il dit, et vous, ça marche comment, en fait? Et là, le berger fait, yep! Et là, tu as tout le troupeau. Je dis la même chose, quasiment. Et tu as tout le troupeau qui réplique, etc. Et tout. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Mais je pense que ce que Jésus veut soulever par cette notion de voix qui est familière, c'est la relation que Jésus, en tant que berger, et je le prends dans un sens très large, en tant que leader aussi, c'est la relation que Jésus offre à ceux qui vont le suivre. Ce n'est pas une relation patron-robot. Ce n'est pas une relation boss-employé. Ce n'est pas une relation avec une hiérarchie distante, mais c'est celle d'une intimité, en fait. C'est celle d'une relation. Parce que parvenir à reconnaître la voix de quelqu'un au milieu de plein d'autres, ça suppose une certaine profondeur de relation. Ça suppose que l'on connaît cette personne-là depuis un certain temps. Vous le savez très bien, on l'a tous vécu, qu'il y a des voix, surtout si c'est notre famille. Instinctivement, notre cerveau, il a reconnu la voix de nos parents, la voix d'un de nos enfants, etc., etc. La familiarité d'une voix suppose une profondeur de relation. Et cette importance, justement, Jésus veut la souligner. Elle se manifeste par cette voix. Et c'est d'autant plus fort qu'en fait, l'image du berger, ce n'est pas juste l'image bucolique, mais l'image du berger aussi dans la pensée juive, c'était un terme qu'on utilise aussi pour le roi. Vous le savez peut-être, David était aussi appelé le berger d'Israël. Il l'avait été dans son enfance, mais c'est aussi une image du roi. Et là, c'est intéressant parce que qu'un berger connaisse ses brebis, que ses brebis connaissent sa voix, on pourrait se dire, oui, c'est un peu logique quelque part. Mais qu'un roi connaissent son peuple et qu'un peuple connaisse vraiment intimement quelqu'un de aussi haut placé, là, c'est un peu moins naturel. Si j'appelle le président de la République, il y a peu de chances qu'au téléphone, juste en l'appelant, en disant « Bonjour, monsieur le président. »« Ah, Manu, c'est toi !» Parce que malheureusement, nous n'avons pas une intimité de relation qui fait qu'un président pourrait connaître la voix et vice-versa, de tous les membres de son peuple. Jésus, aussi roi qu'il est, lui le connaît. Et cela montre une vérité importante pour nous à redécouvrir peut-être, ou à découvrir tout simplement, que Jésus est à la fois ce roi, ce leader avec une autorité indéniable, mais qui en même temps ne cesse d'être accessible, disponible, pour parler avec chacun d'entre nous, au travers des Écritures, bien sûr, mais aussi au travers d'une relation qui est la prière. Nous avons un berger, nous avons un leader avec qui nous pouvons dialoguer, avec qui nous pouvons converser comme nous le ferions avec notre meilleur ami. Un des plus beaux passages pour comprendre véritablement ce qu'est la prière, c'est ce verset de Jésus dans Matthieu 6,6, dans le sermon. Mais toi, quand tu veux prier, quand tu veux me parler, voilà ce que je t'invite à faire. Va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Remarquez la dimension intime de la vie de prière à laquelle Jésus nous invite. Que quand bien même il n'y aurait que le Père qui me voit, c'est pleinement suffisant si nous voulons apprendre à nous connaître. Connaître sa voix et qu'ils connaissent ma voix. Nous sommes invités à approfondir et à peu devenir des hommes et des femmes familiers avec la voix de notre Dieu. Et on est tellement habitué à cela que l'on oublie ce que Jésus est réellement en train de nous offrir. connaître la voix de Dieu. Lors d'une soirée précédente, c'était le thème que les soirées Pulse avaient. Entendre la voix de Dieu. Ça m'a fait penser à deux livres que j'aime énormément, d'un auteur qui a écrit ce livre, Entendre la voix de Dieu, Dallas Willard. Il a écrit, alors vous pouvez choisir la formule que vous préférez, il a écrit ce premier, Entendre la voix de Dieu, qui a été traduit depuis 2-3 ans, je crois, en français. Et il vient de sortir, c'est le même livre quelque part, mais qui est découpé en méditation quotidienne. Du coup, vous pouvez le lire par plus petite dose, jour après jour, mais c'est le même contenu quelque part présenté sous une autre forme. Mais en tout cas, ce sont deux livres que j'aime énormément et qui nous invitent à découvrir ce privilège que nous avons de ne pas juste lire la Bible, ce qui est une magnifique chose, loin de moi de vouloir dire le contraire. Mais nous ne lisons pas la Bible pour lire la Bible. Nous sommes invités à lire la Bible pour entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est une autre chose. C'est bien plus profond, c'est bien plus riche. Et voici ce que Jésus veut être pour nous en tant que berger et leader. Puis il nous invite à considérer une autre facette de son caractère. Et cette fois-ci, c'est sa bonté. Jésus, à plusieurs reprises, le souligne. Il est le bon berger. En insistant sur cette qualité, Jésus veut nous révéler une facette de son caractère. De lui se dégage cette bonté. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on lit ce passage. Son attitude, il les guide, il les conduit, il les fait sortir de l'enclos. Elles le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. On sent qu'il se dégage vraiment une bonté de notre Seigneur, de ce berger. C'est ce qu'il est en lui-même. C'est aussi ce qu'on ressent lorsqu'on s'approche du Seigneur. Cette part de bonté qui se dégage de lui. Jésus, il est dit dans ce passage, connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom. Est-ce que vous avez une fois réalisé ce que ça implique que le Dieu Tout-Puissant, au travers de son Fils, connaît ton prénom? J'ai entendu un jour cette histoire d'un missionnaire qui était aux Philippines et il visitait des écoles qui avaient été créées par leur église. Et puis, en visitant une de ces écoles, un enfant s'est approché de lui et puis lui a demandé quel est son nom. Et donc, ce missionnaire s'appelait Mike. Il dit, moi, je m'appelle Mike. Et toi? Et l'enfant lui dit, ah, moi, c'est Jerry. Eh bien, enchanté, Jerry, de faire connaissance, etc. Et tout. Et l'enfant part avec un grand sourire. Et puis, à peine quelques minutes après, l'enfant revient et puis il lui dit, tu connais mon prénom? Et il dit, bien sûr, tu es Jerry, on a fait connaissance, etc. Et puis l'enfant, immense sourire, il part, puis il revient, et dit, tu connais mon prénom? Et il dit, oui, oui, Jerry, etc., et moi, Mike, etc., on est amis maintenant, etc. Et tout. Et l'enfant, il repart, et il fait ça plusieurs reprises. Vous imaginez bien qu'au moment, le missionnaire, quand même, se dit, il y a quelque chose d'étrange. Et du coup, quand il est avec le directeur de l'école, il dit, cet enfant, Jerry, il y a un souci, ou c'est quoi un peu? Et le directeur dit, ah, Jerry, l'orphelin. En fait, c'était un enfant dont personne ne prenait le temps de mémoriser le prénom. Et le simple fait pour cet enfant que quelqu'un de nouveau, d'un étranger pour lui, connaisse son prénom, le prononce, ne l'oublie pas, ça avait un impact sur lui. Jésus connaît ton prénom, et bien sûr, avec nos prénoms, il y a beaucoup plus que notre prénom. C'est une réalité. Quand Jésus est en train de prendre cette image qu'il connaît ses brebis, qu'il les appelle par leur nom, il n'est plus en train de parler de moutons, mes amis. Il est en train de parler de toi et de moi. Jésus te connaît, nous connaît. Et du coup, cette bonté-là que Jésus manifeste, elle est en fort contraste justement avec l'attitude des autres bergers qui sont décrits et qui sont en fait plutôt de faux bergers, ces fameux brigands, ces mercenaires, ceux qui en fait, dont l'attitude n'a rien à voir avec la bonté, parce que la raison pour laquelle ils prennent soin, c'est que c'est un job, ils sont payés pour ça. Ce n'est pas vraiment l'intérêt des brebis, leur préoccupation, mais plutôt l'appât du gain, la rémunération, le profit. Et ça, c'est quand même intéressant pour nous aussi aujourd'hui. Nous plaçons assez souvent notre confiance dans tout un ensemble de personnes autour de nous, via les médias, via ceux qui nous dirigent, via ceux qui nous influencent, via ceux peut-être qu'on admire, etc. On a tous fait ça. Et puis quand tout d'un coup, au travers d'un fait divers, on apprend quelque chose concernant cette personne-là, on a un sentiment de déception. Quoi, il a fait ça? Quoi, c'était une personne qui, en fait, était voleuse, etc., etc. Et on a un véritable sentiment de trahison. Quand tout d'un coup, une personne à qui on avait, quelque part, accordé une forme de confiance, une forme d'influence, ce qu'il disait sur tel ou tel sujet, avait un impact sur nous. Et quand tout d'un coup, on découvre que cette personne-là n'était peut-être pas si digne que cela de cette confiance, nous refaisons la même erreur stupide que dans le film de Forrest Gump. C'est que tout d'un coup, c'est pas, je ne vous ai jamais demandé de me suivre. Je ne vous ai jamais promis que j'étais parfait. Je ne vous ai jamais dit que je ne ferais jamais d'erreur. Mais malheureusement, combien de personnes, des fois, sont dans la désillusion et du coup, après, refusent de faire confiance à qui que ce soit et parce qu'ils ont été victimes de cet sentiment de trahison. Jésus, par ses dimensions où lui est digne de confiance, nous laisse aussi un modèle pour nous. Parce que si Jésus est au-dessus de nous, il reste un modèle en même temps pour nous. Sommes-nous dignes de confiance ? Que nous le voulions ou non, notamment si nous sommes parents ou si dans notre profession nous avons des responsabilités, nous avons une certaine influence sur d'autres. Nous avons une certaine autorité. Est-ce que nous sommes dignes de cette confiance-là ? Vous savez très bien que l'évangile de Jean se termine avec la restauration de l'apôtre Pierre. Et vous vous rappelez la question que lui pose Jésus pour le restaurer. Pierre, m'aimes-tu ? À 3 reprises, pour le restaurer de ce reniement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que Jésus lui dit juste après. Nourris mes brebis. Jésus est en train de lui dire quoi ? Deviens un berger pour d'autres comme je l'ai été pour toi. Donc dans ce passage, Jésus est non seulement en train de nous montrer qu'il est un berger hors catégorie, mais il est aussi en train de nous donner un exemple si nous voulons être digne, sincère dans l'influence que nous pouvons sur d'autres. Nous avons là un modèle pour nous, mes amis. Notre bonté envers les autres. Et ça prendra parfois du temps, mais nous sommes appelés, en tout cas, nous aussi. Mais Jésus, et là, je reviens sur lui parce que il va enfoncer le clou sur sa dimension incomparable. C'est qu'il n'est pas juste le bon berger, c'est qu'il est le bon berger donne sa vie, qui donne sa vie pour ses brebis. Et là, on devient hors catégorie. S'il est certain qu'un berger prend soin de ses brebis, qu'il veille sur elles, qu'il les soigne, si elles se blessent, qu'il les défend si un prédateur les attaque, vous imaginez bien que dans la réalité, aucun berger ne va réellement mourir pour un mouton. Ce serait idiot parce qu'il y a des brebis, il y en a bien d'autres. Et donc, si à un moment donné, le loup ou l'ours l'a emporté, et qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, il ne va pas aller se jeter dans la gueule du lion, dans les griffes de l'ours, juste par esprit kamikaze. Un véritable berger, non, ne meurt pas pour des animaux. Et là, vous comprenez bien que par cette image que Jésus nous donne, il n'est plus du tout en train de parler d'un troupeau de brebis. Mais ce n'est plus une image maintenant, c'est la réalité. C'est plus simple des belles paroles, mais c'est une déclaration solennelle de l'ampleur de l'amour qu'il a pour nous. C'est que tout comme des brebis peuvent être menacées par un ours ou par un loup, nous sommes nous aussi menacés par un danger spirituel, un ennemi qui veut notre malheur, le diable. Le diable, tel un lion rugissant, rôde autour de nous et désire lui aussi voler, dévorer, nous faire entrer un peu plus profondément encore dans le péché, dans le mal, pour le simple but final de nous faire mourir. Et Jésus, qui était parfaitement conscient de ce danger, qui était réaliste sur ce qui l'attendait dans le jardin de Gethsémané, il a affronté ce combat-là. Il allait avoir le choix entre lutter avec le projet du Père qu'il donne sa vie et le prix que cela allait lui coûter. Et nous savons le choix qu'il a fait. Notre berger a accepté et a bu la coupe qui pourtant était difficile. Il a donné sa vie, mais en mourant, Il nous a sauvés en prenant sur lui nos fautes, notre condamnation. Il nous a aussi délivrés du danger et il a annulé notre condamnation. Il s'est offert pour que nous soyons réellement réconciliés, que nous faisions partie de ce troupeau-là. Et par sa mort, il nous a sauvés. Et sa résurrection atteste cette victoire. C'est l'évangile, c'est le cœur de l'évangile. Ce que Jésus, le bon berger, a fait, aucun autre leader ici-bas ne l'a fait. Il n'est pas dans la catégorie des grands hommes, il est hors catégorie. Parce que le don de cette fille, c'est l'acte ultime par lequel il te prouve, il me prouve à quel point il t'aime et il nous aime. Nous l'avons chanté aussi ce matin. Vous avez remarqué que c'est dans ce même passage où nous avons ce beau verset. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Quand il y a de tels versets, on doit vraiment comprendre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous et moi, on est vivants, non? Si quelqu'un veut me dire, tu sais, tu as la vie. Ben, merci, je sais, hein, je suis né le 15 juin, etc. Donc, qu'est-ce que tu es en train de parler? De quelle vie tu es en train de parler? Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, la vraie vie. Et cette vie que Jésus nous offre, à laquelle j'espère tu goûtes, c'est au travers du don de sa vie qu'elle nous est devenue accessible. Il fallait que le Christ donne sa vie et que nous la recevions pour que nous puissions goûter à cette vie abondante. Et c'est quoi cette vie abondante? C'est le fait qu'au travers de cette réconciliation avec le Père, tout ce qui est dans notre Père céleste nous est maintenant accessible. Sa paix, sa joie, son amour, sa bonté, sa réconciliation, sa présence au quotidien, tout cela, c'est la vie abondante. Dans 2 Pierre, il nous a dit que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Tout ce qu'il faut. Cela ne veut pas dire que Dieu nous gâte en un jour et nous donne tout pour que nous soyons dans une espèce d'abondance, de surconsommation. Non, quand Dieu nous dit qu'il nous a donné tout ce qu'il faut et qu'il nous donne ici cette vie abondante, il est en train de nous dire que demain, en Jésus-Christ, tu auras tout ce qu'il faut pour vivre dans la présence de Dieu demain. Il ne te donne pas aujourd'hui tout ce qu'il faut pour demain. Aujourd'hui, il nous donne, pourquoi? Parce qu'on est dans une relation vivante où la vie de notre Seigneur coule en nous jour après jour, en continu, depuis que nous avons reçu cette vie à lui. Et donc, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. Je n'en ai aucune idée. Si vous avez pour vous, vous avez de la chance, mais je n'ai aucune idée. Mais je sais une chose, c'est que demain, Dieu sera le même qu'aujourd'hui et demain, quelles que soient les circonstances, il me donnera tout ce qu'il faut pour traverser la journée de demain. Sa paix me sera accessible, son pardon me sera acquis, son amour, sa présence, sa joie seront là si je veux demain continuer à être uni à lui, mes amis. En donnant sa vie à la croix, Jésus nous permet d'accéder à cette vie abondante. Ne prenons pas le mot abondante pour tout de suite dire « Ah oui, donc abondante, grande maison, grosse voiture, gros cylindré, etc. » Quand bien même Dieu vous donnerait tout ça, plaise à Dieu s'il le veut, vous ne l'emporterez pas avec vous. Même la voiture, même la grosse cylindrée, même ceci, même cela qui vous... Mais par contre, la joie de connaître mon Dieu, d'entendre sa voix, la joie d'avoir vécu tout au long de ma vie dans cette paix, dans cette plénitude d'une communion avec mon Dieu, alors ça, personne ne va me le voler. Ça, aucun berger ne va pouvoir me le voler. Et je vais entrer dans la présence de mon Dieu et je le connaîtrai déjà bien. J'aurai encore beaucoup à découvrir, mais je le connaîtrai. C'est ça la vie abondante. Nous le disons assez souvent, et je ne vous apprends rien, que nous vivons dans une société tellement matérialiste que nous n'arrivons plus à réaliser la beauté de ce que Jésus est venu nous offrir. Je rentre de Côte d'Ivoire d'un voyage mission. Je n'ai pas vu beaucoup de grosses maisons, je n'ai pas vu beaucoup de gros cylindrés, surtout que nous étions tout au nord de la Côte d'Ivoire. mais j'ai vu des hommes et des femmes comblés par la présence de Jésus-Christ. Et pourtant, leur maison tenait à la superficie de l'estrade. Aucun meuble. Et ce n'est pas parce qu'ils sont heureux dans cette dimension-là et que c'est ça la gloire, mais c'est que la vie et la présence de Jésus-Christ les comblent d'une manière que quand je suis là-bas, je dis, mais dites-moi comment vous faites. Apprenez-moi cette joie, cette plénitude. Et bien sûr, il y a un développement et il y a la joie de pouvoir acquérir un meilleur confort, c'est l'accès à l'eau potable, la possibilité de se soigner, etc., etc., etc. Mais nous le savons, nous qui avons tout ça, le bonheur n'est pas véritablement là. Il est dans cette vie abondante. Je voudrais juste terminer avec un dernier éclairage sur quelque chose que dit Jésus. Et là aussi, c'est évident, mais en même temps, on peut éventuellement passer dessus. C'est la nature de la formulation de ce que dit Jésus dans sa déclaration. Moi, je suis le bon berger. On l'a vu, il nous assure par sa voix d'une présence et d'une relation profonde. Il nous assure qu'il est le bon berger. Il nous le prouve en donnant sa vie. Mais il exprime aussi par sa façon de formuler cette affirmation, moi, je suis son unicité. Nous vivons dans une société qui n'aurait aucun problème si Jésus avait dit, je suis un bon berger. Là, tout le monde signerait des deux mains. Ça nous irait beaucoup mieux, ça nous permettrait d'être mieux acceptés si Jésus avait juste dit, je suis un bon berger. Vous en cherchez un, écoutez, je peux faire l'affaire. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est absolument pas ce qu'il dit. Jésus ose dire, comme dans beaucoup d'autres passages et dans les autres « je suis » que vous avez déjà vus, « moi, je suis le bon berger ». Et c'est important, mes amis, parce que ça veut dire que tout comme nous prenons au sérieux sa bonté, sa voix qui nous est familière, le fait qu'il donne sa vie, nous devons aussi prendre au sérieux son affirmation qu'il est l'unique, que c'est lui et nul autre qui est le bon berger. Ça veut donc dire pour nous qu'il ne veut pas être un berger à mi-temps. Qui ne veut pas être juste le berger de ton dimanche matin. Qui ne veut pas être un berger et puis partager avec d'autres bergers. Il ne t'offre absolument pas cette option. Jésus dit, moi, je suis le berger. Et si vraiment tu me laisses être ton berger, tu pourras goûter à cette vie abondante et à ce que je veux vraiment faire. Mais si tu veux que je sois simplement un berger parmi tant d'autres, etc., que tu te choisis, sache que tu ne goûteras jamais à la réalité de ce que je veux te promettre. Parce que Jésus, son troupeau, c'est le sien et personne d'autre ne lui dit quoi faire avec son troupeau. Et donc, il y a une invitation en fait aussi sérieuse. On n'est plus juste dans une image bucolique d'un petit pré dans les Alpes. Jésus nous dit ce matin, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas encore, moi, je suis le bon berger. Et je te donne plusieurs preuves. Je t'invite à une relation profonde avec moi. Je t'assure de ma bonté. Et je te l'ai prouvé à la croix en te donnant ma vie. Maintenant, je veux que tu saches, moi, je. C'est moi et moi seul. Et cela, ça nous invite vraiment à réfléchir. Si Jésus est réellement le berger de toutes les facettes de ma vie, nous aimons bien des vies un peu partagées, compartimentées. Et du coup, on le sait tous, et je parle en connaissance de cause, mes amis. Il y a eu des domaines où Jésus n'avait aucun souci à être mon berger. Mais si je peux être mon propre berger ou si je peux choisir quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre pour être le berger de cet aspect-là de ma vie, pourquoi pas essayer? Mais chaque fois que j'ai fait cela, curieusement, peu à peu, tout ce que Jésus m'offre me paraît de moins en moins avoir de la saveur. Cette fameuse vie abondante, je n'y goûte plus vraiment. Et c'est quand je reviens vraiment à ce que Jésus a dit. Manu, moi, je suis le bon berger. Moi, je peux être vraiment le berger dont tu as besoin. Et dans tous les aspects de ta vie, quelqu'un bien avant que Jésus formule cela avait annoncé une vérité que Jésus incarne merveilleusement. Cela a été lu au tout début de notre culte. David, cette préfiguration du berger affirmé, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Soit David ment, soit David exprime quelque chose d'une profondeur qu'il nous faut redécouvrir. Et cette vérité, nul autre que Jésus nous l'a manifestée, éprouvée. Jésus est mon bon berger. Et grâce à lui, je ne manque de rien. La question pour nous ce matin, qui est ton berger? Et l'invitation, c'est que Jésus veut et peut être ton bon berger et t'assurer que tu ne manqueras de rien. Alors, ne suivons pas les Forrest Gump de nos jours, mais le plus tôt possible, prenons cette décision. Et notre sœur qui a fait la présidence, la louange, nous l'a rappelé. Il a été ce bon berger fidèle. Et il peut l'être pour chacun d'entre nous. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous réjouir d'avoir un tel bon berger. Je vais prier.